Mets-toi au sol. Main sur la tête.
Hurle le premier à atteindre le tourniquet.
Resqueront-ils ?
Beugle-t-il. En giclant une première bardée de sa bombe qui fait tousser. Le second limite. Je suis gazé jusqu'aux os. Les yeux se déchirent de douleur. Je suis refait. Je tousse. Le premier, le second, je ne sais plus très bien, qui injecte une nouvelle pulvérisation lacrymale. Je m'incline, telle une bête à l'agonie. Il y a bien un moment où ça va s'arrêter, où je m'avouerai vaincu, et où ils seront bien obligés de m'attraper. Et ça me libérera de l'air frais. En attendant, je gesticule contre mon sort. Je bastonne tant que je peux sur cette porte vitrée, qui ne cède pas. Et plus je m'agite, plus je respire de leur gaz de merde. Plus je suffoque, plus j'irrite mes muqueuses, sans perdre force. J'ai les poumons en feu, je cède, résigné, haletant. C'est ici que se termine mon aventure. J'aurai donné ce que je peux pour la cause. Je ne serai pas un héros, je l'ai jamais été. D'autres, je l'espère, sans trop y croire, continueront le combat. J'entends l'un des deux molosses farfouiner avec ses clés dans un coin du tourniquet. Que ce soit dans un sens ou dans l'autre, cette porte va bien finir par s'ouvrir. Et si c'était ma chance ? De toute façon, c'est encore moi qui décide, vu que je suis encore bloqué à l'intérieur. Et que mon corps et quelques points de blocage bien placés peuvent encore faire le levier nécessaire. Je sens la porte tout d'un coup se déloquer. Les deux abrutis se mettent à bourriner tout ce qu'ils peuvent, tout ce qu'ils ont de débilité. De ce point de vue, ils ont de la ressource, en termes de bourrinage, j'entends. Je continue de faire blocage de tout mon corps, du peu de mon poids, mais ça suffit pas. Entre deux mouvements de va-et-vient, tant ils poussent fort et s'agacent, je sens la porte devant moi se tordre légèrement. Qui d'elle ou de moi aura raison de ces bourrins ? Je me contorsionne pour tâcher d'y glisser un pied, de la pointe de ma basket d'abord, puis la force cumulée des deux imbéciles bourrinant derrière et dans la faille. À chaque coup de boutoir, je parviens à glisser le pied entier. Ça me fait un mal de chien, mais c'est eux qui sont bloqués à présent. Il n'y a plus grand-chose à faire. Sinon attendre, dans ce bras de fer où je suis seul contre ces deux sécus, aussi idiots que forts. Ils doivent se décider quoi faire. Ça ne peut pas durer l'éternité, cette situation ridicule.
La vide de l'autre côté pour le tirer. Moi, je maintiens le pied.
Hurle le second au premier. Que cherche-t-il vraiment ? J'ai déjà un pied dehors. À leur place, j'aurais pas fait ça. À vrai dire, je sais pas ce que j'aurais fait, mais c'est leur problème. Le premier a la bonne idée de vouloir quitter son collègue pour rejoindre l'autre côté du tourniquet en passant par la porte de secours. J'engage alors un mouvement de balancier. Le temps que le gus trouve ses clés, tombe sur la bonne. Je n'aurai sans doute pas beaucoup de temps. Par mini-mouvement, centimètre par centimètre, je sens que je gagne du terrain.
Mais mange-toi, bordel !
Hurle celui resté à l'intérieur à celui pas encore sorti. Je continue à gagner l'avantage, le mollet, puis rapidement la cuisse. Si la hanche passe, tout passe. Le second panique. Il décide de revenir aider son collègue. Ils sont foutus. Je file entre les mailles de la porte et détale à toute allure. Égratigné, mais vivant. J'ai les poumons en feu, mais eux n'auront jamais de quoi me poursuivre. 10 mètres, bientôt 30, ils n'avaient qu'à faire du sport. Je dois être de piètre allure dans ce qui, jadis, ressemblait à toute la place financière du coin. Ils sont bien loin maintenant, les deux gus. Je peux enfin profiter pour reprendre mon souffle. Je décide de me ressourcer le long du Rhône, profiter de sa fraîcheur, histoire de me refaire un peu. D'évacuer la sueur et faire meilleure allure, alors que je retrouve Karen au bout du monde, dans une demi-heure. Elle m'y rejoint, à l'heure dite, à l'endroit précis, près du centre sportif. Nous avons encore quelques pas pour rejoindre Gérard. Nous bavardons sur notre journée. Elle s'est promenée le long des rues désertes de Genève. Elle a réussi à décrocher un rendez-vous avec l'assistante sociale, enfin. Moi, ma journée a été d'une épuisante banalité. Mes lèvres me brûlent de l'embrasser, là, de nous asseoir au bord de cette plage qui longe le fleuve. J'aurais aimé lui raconter ma fuite, pas banale, mais je peux ni l'un ni l'autre. Alors je bavasse, n'importe quoi. Gérard est affairé à repiquer, justement, des salades. Un interminable alignement de salades, une litanie de supplices. Pour qui a les genoux au sol. Il se redresse, une main collée en bas de son dos, le mal de ceux qui ont encore du travail, la peau grillée par le soleil, les poumons colmatés par la poussière. La sueur de leur front que l'IA, censée nous faciliter la tâche, n'a toujours pas jugé bon nous reprendre. Dommage, nous on n'aurait pas dit non à l'IA pour une fois.
Ah, Alix !
Me hèle sortant de sa tâche le maraîcher.
Elles étaient pas bonnes ces carottes ?
Ajoute-t-il, mi-blagueur, mi-questionneur. Ah non, t'inquiète, je voulais présenter l'endroit à Karen. Alors je te présente Karen.
Ah !
Ponctue-t-il, cherchant sa réplique, sans même me laisser finir.
Eh bien, bonjour madame.
Sourit-il.
Bienvenue. Sandrine doit être à la boutique. Allez-y seulement. Elle sera heureuse de vous rencontrer.
La cabane est tout ce qu'il y a de plus rustique. Faite de planches, de tôles de récupération, mais surtout de briquets de broc. Sandrine y est affairée à ranger quelque chose de sa composition. Des touches de couleurs, qu'elle adore agencer, pour que l'aspect général soit plus présentable. Peut-être aussi parce qu'elle a du temps à perdre, en ce bout du monde, où personne ou presque ne vient plus.
« Hey Sonia !»
dit-elle en se retournant.
« Mais ça alors ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? »
ajoute-t-elle en l'embrassant.
« Ça me fait super plaisir de te voir. »
Karen reste muette, à son habitude. Je suis interloqué. Mais j'ai bien noté quelque chose qui ne tournait pas rond. Mais quoi ?
« Oui, j'ai rencontré Alex hier et il m'a accueilli chez lui. C'est une histoire un peu longue à te raconter, mais toi, tu vas comment ? »
s'empresse-t-elle d'enchaîner. S'ensuit une série de discussions sur le temps passé. J'apprends plein de choses sur elle, au passage, alors que nous visitons l'exploitation. Nous repartons les bras pleins de légumes fraîchement cueillis, et des souvenirs pleins de cabas. Je découvre la jeunesse franc-montagnarde de Karen, que visiblement sa copine d'enfance appelle Sonia. Tant de questions qui vont mériter éclaircissement, mais à mon habitude, je lui prête une explication qui ne m'appartient pas, et je ne fais aucune supposition. Nous nous saluons dans un genre d'hystérie commune, en promettant de se retrouver, évidemment, de se donner des nouvelles. Ce que nous ne ferons pas, évidemment. Je propose à Karen de prendre un petit peu de temps. Alors que la lumière du soleil se prête à la contemplation au bord du Rhône. J'ai envie à ce moment. Envie aussi d'éclaircir ces mystères. Autant que de chasser mes idées de tendresse qui, à chaque pas, commencent à m'envahir. Mais alors vous vous connaissez, c'est incroyable.
Oui, ça fait un peu bizarre. Ça doit faire 25 ans que je ne l'ai pas revue. Elle n'a pas changé. C'est une copine d'enfance, on était dans la même école à Montfaucon.
Mais tu m'avais caché que t'étais des franches montagnes.
Être non. J'ai juste passé un an là-haut. Mon père travaillait dans un atelier horloger. Puis ça n'a pas continué, j'ai jamais vraiment su pourquoi. On est retourné en France.
Et tu as changé de nom entre-temps ?
Sonia, c'était mon surnom.
Nous nous installons dans une petite crique, une micro-plage, connue de peu de visiteurs. Qui ne se découvre qu'en des occasions galantes.
Non, ça c'est parce qu'il y avait une autre Karen à l'école. J'en avais marre qu'on me confonde. Alors je leur ai proposé qu'on m'appelle Sonia, mon deuxième prénom.
Elle se rapproche petit à petit près de moi, prétextant d'un geste de la main des cailloux sous les fesses. Je sens peu à peu sa chaleur m'envahir, celle de ses hanches alors toutes proches.
Et toi, Alix, je me rends compte qu'en fait, je savais pas grand-chose de toi.
Je crois bien. Et je suis pas du genre bavard, tu sais. On a tous des parts de secrets. Mais disons peut-être comme toi. C'est pas toujours facile quand on a des traumas. Ça a à voir avec... Je sens sa main se rapprocher, m'effleurer du bout des doigts. Comme une chatouille, une décharge électrique. C'est mignon.
Désolé, je suis maladroite.
Je sens un univers s'ouvrir. Je suis touché, si je peux dire. Qu'elle fasse ce premier pas, du bout des doigts, c'est vrai. De façon codifiée.
Mais avec le fait que tu t'appelles Alix, et que de ce fait, tu ne t'identifies pas.
Je sais pas si ça a un rapport, lui dis-je cette fois en saisissant sa main, pour retourner sa caresse. J'ai pas grand-chose à te dire là-dessus. On a tous un passé, tu sais. On se construit avec ce passé. Et... J'ai pas envie d'en parler.
C'est pas grave, t'inquiète pas. Je comprends. Enfin, peut-être que tu pourras me répondre. C'est un rapport avec ce signe que tu as sur ton bras ?
C'est le signe lambda. C'est un symbole grec. Les Spartiates le mettaient sur leur bouclier. C'est plein de valeurs symboliques, d'engagement et de valeurs collectives, d'efforts. Je sens monter une envie irrépressible de la serrer dans mes bras, pour me rassurer, pour m'assurer de sa tendresse en retour. On se regarde tendrement pour la première fois. Ses lèvres dessinent un sourire timide. Elle ferme doucement ses yeux, comme une invitation à l'embrasser. Je desserre alors ma main d'un coup sec et la retire comme un réflexe. La froideur du silence s'installe. Une microseconde séparait pourtant mes traumas d'une douceur certaine. Cette fois, c'est moi qui instille le rejet, comme la peste.